Alors, on est à Genèse chapitre 28. Le passage en question ce matin, le titre que j'ai donné, c'est « La vie est une montagne russe ». Je ne sais pas pour vous autres si vous êtes fans de ces événements-là. Mes enfants m'ont amené souvent et puis à chaque fois, je me dis « Pourquoi je suis là? » J'aime pas les auteurs, j'aime pas ça, les sensations vives. J'aime ça calme, mais les montagnes russes, on monte, et puis quoi après? On descend, à haute vitesse. Puis on descend, puis après qu'on a descendu, qu'est-ce qui arrive? On remonte encore, puis on descend, puis on remonte, puis on descend. La vie, c'est comme ça. Et on va voir la vie de Jacob. Il est en train de vivre justement cette expérience des hauts et des bas. Nous, on peut dire que la vie en général est comme ça. Et on dit ça en termes d'expérience physique, n'est-ce pas? On vit dans un monde où on a souvent des démarches et puis on a des succès en affaires, des succès en termes de travail. On a aussi des fois des échecs. On a des fois des expériences qui sont pénibles. Ceux qui ont déjà perdu leur emploi peut m'en parler, je suis sûr. Je l'ai vécu. C'est pas agréable. On perd un emploi, la compagnie elle ferme ses portes. Et nous, on avait un salaire, on avait des obligations, on a une famille à s'occuper. Des fois, on dit que on a plein d'événements dans la vie qui sont joyeux, et d'autres fois, c'est tellement triste. Un des plus joyeux, c'est les mariages. On voit des mariages. C'est donc fantastique de voir un couple qui se met ensemble et qui prennent une décision. Et c'est merveilleux. Puis aussi, on a des choses comme des funérailles où on est triste parce qu'on va perdre quelqu'un qui nous a été cher et ils ne sont plus avec nous. On a aussi dans la vie plein de situations, des imprévus, n'est-ce pas? Les accidents. Les accidents, des fois c'est fâcheux, d'autres fois c'est même grave. Dans même des cas, certains cas, chez nous, on a perdu mon gendre par un accident d'auto. Il était en moto et l'auto a coupé devant lui et lui a perdu la vie instantanément. C'est sérieux, les événements, les hauts et les bas de la vie. On a tout subi, j'imagine, des maladies. Des simples grippes, mais aussi on a des maladies beaucoup plus sévères, des maladies chroniques, où ce qu'on vit avec une douleur, une souffrance. C'est dur à regarder le Seigneur pendant tout ce temps-là, puis dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça arrive chez nous? Mais de l'autre côté, je ne sais pas vous autres, moi j'allais bénéficier, on vit dans un endroit où ce qu'on a les soins, tant qu'à moi, presque miraculeux. Parle à Nicolas et il va te parler de l'expérience qu'il a vécue avec Fred et il était vraiment impressionné simplement de voir le système, comment est-ce que le système pouvait monter à la situation et puis donner des soins de qualité et des soins vraiment fantastiques. Moi aussi, je l'ai perçu comme ça et je suis impressionné dans le sens que le Seigneur nous a permis de vivre ici parce qu'ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. On n'a pas accès à ces soins-là. Mais aussi dans la vie spirituelle, on a des hauts et des bas. Souvent, on rencontre des gens ici à l'église, comment ça va bien, tout est beau. Mais dans le cœur, ce n'est pas nécessairement le cas. Des fois, on a des situations qui sont tellement pénibles spirituellement. On vit des hauts, on vit des bas. Et il y a des fois où ce que Dieu nous donne des victoires, où on est vraiment heureux, on veut célébrer ce que Dieu nous a fait. Puis d'autres fois, il nous donne des épreuves, et des épreuves difficiles, des épreuves spirituelles, où ce que nous, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu nous donne ça? La réponse en passant, lorsqu'on a des épreuves, la réponse sec, c'est que Dieu veut nous montrer quelque chose. Soit qu'il veut nous montrer un péché dans notre vie, il veut nous châtier avec une épreuve, et il veut qu'on apprenne. D'autres fois, c'est simplement parce que Dieu veut servir de nous comme témoin à d'autres personnes. On ne le réalise pas. Beaucoup de gens, lorsqu'ils passent les épreuves, ne réalisent pas qu'il y a d'autres personnes qui sont affectées et qui sont impressionnées par ce qui arrive. Mais on a des hauts et des bas, et Dieu nous fait exposer à toutes ces choses-là. Et dans chapitre 28, 29, 30, 31, on va voir comment est-ce que Jacob va vivre des hauts et des bas. Et on va regarder lui et sa famille, on va essayer de comprendre ce qui se passe, mais en même temps, on va essayer d'identifier c'est pourquoi est-ce que Dieu a placé ça ici pour nous. C'est tout simplement pour nous divertir, ou c'est vraiment des choses que nous, on peut mettre en application dans notre vie? Dans le contexte de ce matin, ça se trouve dans Genèse chapitre 28, les premiers versets. Isaac appelait Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité. Avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, il s'en alla à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araménien, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. » Alors, on a cette introduction ici. Non, le problème qu'on a ici, c'est que c'est pas exactement ça. On commence le chapitre et on voit que Isaac va envoyer Jacob à Charan pour trouver la famille de Rebecca. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que nous avons eu la semaine passée la discussion sur chapitre 27. Et on a vu que chapitre 27, ça suit 26. Il y a quand même un cheminement assez impressionnant dans la vie de Jacob. Jacob a acheté le droit d'aînesse de son frère pour une bol de soupe. I mean, déjà, là, ça sonne drôle, oui? Yeah. Qui dans sa vie va jeter Ésaü, voulu, il avait faim, donne-moi de quoi manger ou je meurs. I mean, c'est la drame familiale incroyable. Et Jacob a dit, oui, donne-moi ton droit d'aînesse, tu peux avoir un bol de soupe, sûr, pas de problème. Et on voit ce scénario où ce que Jacob profite de son frère. Et plus loin, on a vu dans le chapitre 27 que Jacob, sous l'influence de Rebecca, j'ajoute, là, de sa mère, il a volé la bénédiction d'Ésaü. Et ils l'ont fait en trompant leur père Isaac, que lui essayait de passer une vite et essayait de bénir Isaac en arrière. Et c'était un exercice plutôt clandestin, mais Rebecca a tout entendu et elle a embarqué son fils Jacob. Et il a dit, hey, va préparer les chevreaux, mettre le pot de chèvre sur les bras, sur le cou. Ton père va penser que c'est Ésaü, il va te donner la bénédiction. Évidemment, elle aimait Jacob plus, et le résultat, c'était que le frère Ésaü était furieux, à un point que lui avait planifié, qu'il était pour tuer Jacob lorsque son père décède. Il savait que son père était près de son lit de mort, il s'attendait des nouvelles assez rapides que il va être lui et son frère, puis c'est lui qui va prendre le dessus, il va tuer Jacob. Rebecca a entendu ses plans et elle a dit, faut que je trouve une façon de sauver la vie de Jacob. Sa façon à elle, c'est d'aller voir Isaac et lui dire quoi? Oh, on est tanné des femmes que Ésaü a choisies. Ésaü avait choisi des femmes canaïennes et il a dit, on va envoyer Jacob dans la famille, trouver une bonne femme. Et de cette façon-là, il était pour être loin de Ésaü, loin de cette situation où ce qu'il va le faire mourir. Et ça complique les choses. Est-ce qu'on voit comment est-ce que la vie familiale, c'est spécial? Et lorsqu'on voit le scénario ici, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? La solution, c'était Isaac, l'a pris en main, il a dit, on va donner des instructions à Jacob, on va l'envoyer dans la famille de Rebecca, et on va sauver sa vie, mais en même temps, on va y trouver une femme qui soit appropriée. Quelqu'un dans la même famille, et c'est important à comprendre, pourquoi la même famille? Dans une famille, on a des valeurs. Les valeurs, ça se communique avec les années, avec les expériences. Nous, les pères, nous sommes habitués, n'est-ce pas, à radoter. On redit et on redit. Combien de fois est-ce qu'on dit aux enfants quoi faire, quoi penser, comment agir? C'est normal. Ça se fait depuis le temps d'Adam. Notre rôle, en fin de compte, c'est d'instruire nos enfants. Et on voit la situation, les valeurs, ça se voit. Nous, chez nous, on était surpris de voir les enfants sourds qui n'entendent jamais rien et que pourtant, lorsqu'ils ont eu leurs enfants, on commence à entendre sortir de leur bouche des affaires que nous les avons dit pendant des années et des années. Quelle merveille! Qu'eux autres le disent exactement. Tu parles trop fort, baisse le ton, hein? Chicane-toi pas avec ta sœur, avec ton frère. On entend ces choses-là et on se dit des questions. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Le Seigneur nous a donné un rôle à faire et la famille, c'est une source de valeur. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que parmi ces valeurs, il y a quelque chose qui était commun dans la famille de Abraham, de Laban, de Bethuel. Toute cette famille avait une crainte de l'Éternel. On sait qu'ils avaient d'autres idoles, d'autres dieux, mais chaque fois que le sujet d'Éternel arrive, ils deviennent très sérieux, très respectueux. Et c'est quelque chose qui ne se trouvait pas dans les gens qui habitaient le pays de Canaan. Ils n'avaient aucun intérêt à Dieu, aucun intérêt pour le suivre, l'obéir. Alors, c'était quand même des instructions qu'il a données à Jacob. Tu vas y aller, tu vas trouver une femme, ça va être le bonheur total. Nous savons que Rebecca a dit qu'elle va attendre que Ésaü se calme et elle va le faire revenir. Pourtant, on sait très bien en lisant plus loin que c'est pas ça qui est arrivé. Mais elle avait l'espérance de voir son fils. Mais la manière que Isaac a donné des instructions à Jacob, c'est pas comme s'il va revenir le lendemain. Dans deux semaines, il va revenir avec une épouse et tout va être beau. Non! Non, la bénédiction, c'est une postérité qui soit fertile, qui ait toute une famille. Et on voit toute cette idée, hein, est-ce que c'est parce que Isaac est prophète? Et la réponse est oui. Mais aussi qu'il reconnaît que c'est un voyage qui est assez long, assez spécial. En verset 10 du chapitre 28, Jacob va partir pour Charan, il va partir de Beersheba. Et juste la géographie, c'est important à reconnaître. Le Beersheba, c'est dans le sud de la Palestine. Et il s'en va à Charan. Charan, c'est dans le nord de Syrie, presque dans le pays de Turquie. Juste des références pour nous autres. C'est quand même un long voyage. Un voyage d'à peu près 700 kilomètres. Et Jacob est seul. Il n'est pas là avec le train ou avec l'avion. Non, il est en train de faire 700 kilomètres à pied. Il est en train de marcher et il n'a pas grand-chose avec lui. Il est tout seul et il commence à réfléchir. Je ne sais pas vous autres, est-ce que vous avez souvent du temps à vous tout seul? Ou est-ce que vous avez une opportunité à juste réfléchir? Moi, je me trouve souvent dans l'auto. Beaucoup de voyagements. Et souvent, je ne mets même pas la radio, je suis juste en train de penser qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qui va arriver dans le futur, est-ce qu'on est prête. Et Jacob est en train de faire justement cette expérience-là. Il est certainement en train de réfléchir à tous les événements qui sont arrivés récemment. Penser au fait que Jacob, son frère, Ésaü veut le tuer. Il l'a quand même déjoué. C'est peut-être pas correct ce que j'ai fait. Mais je suis sûr qu'il réfléchit à toutes ces choses-là en marchant. En passant, il n'a pas de Google Maps. Jacob, il s'en va vers le nord. tout ce qu'il sait, c'est que Charas est vers le nord. On s'en va et puis on espère le trouver. Ça doit être une de ses préoccupations. Comment savoir si je me suis rendu? Je veux pas le dépasser. Je veux pas marcher pour rien. Comment est la façon la plus facile pour me rendre là-bas? Alors, Jacob est préoccupé par toutes ces choses-là. Et il marche. Et il passe certainement, comme j'ai mentionné au commencement, des choses en haut, des événements fantastiques, spectaculaires, mais aussi des bas, des éléments dans sa vie où il n'est pas fier, qu'il n'est pas content. Il vit avec une incertitude par rapport au futur. Il ne sait pas s'il va être bien accueilli par la famille de Rebecca. Tu veux voir toutes les choses qui lui trottent dans la tête. Non. Ils nous disent ici, dans verset 10, qu'il quitte, il s'en va à Charan, verset 11, il arrivait dans un lieu où il passait la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont fit son chevet et il se couchait dans ce lieu-là. On va voir plus loin que le lieu, c'est ce qu'on appelle Bethel aujourd'hui. C'est Jacob qui va le nommer. Et c'est un endroit qui est à peu près 75 à 80 kilomètres au nord de Beersheba. Littéralement, le voyage d'à peu près un jour, deux jours. Il est là, il est dans un champ, il est fatigué, le soleil est couché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir. Et lui, il prend un rocher, une pierre comme oreiller. Et déjà, comme enfant, quand j'avais lu cette histoire-là, je trouvais ça un peu stupide. D'habitude, un oreiller, on aime ça quelque chose d'un peu plus doux qu'un pierre, n'est-ce pas? Mais ça doit être une pierre qui est à la bonne hauteur. Mon beau-père m'avait enseigné que quand on achète un divan, qui a une distance entre les coussins et la coudoir, toujours la distance de l'oreille et l'épaule. Et je l'ai regardé en disant, de quoi tu parles? Puis là, il me disait, oh! La somme parfaite, ça se fait quoi avec une bonne oreiller, juste la bonne hauteur? J'imagine que c'est ça que Jacob a fait. Il a trouvé un pierre qui faisait l'affaire et il s'est couché. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'il va s'endormir et comme tout le monde qui dort, on a des rêves. Et on a des rêves des fois un peu bien banales ou d'autres fois on a des rêves bien niaiseux. Je parle à une Christiane ce matin. Moi, hier soir, j'ai rêvé qu'elle est partie, elle a acheté une maison et elle nous a trouvé une place. Et j'ai expliqué que c'était une rue qui était sans issue. Comment est-ce qu'on peut se rendre dans une maison quand on ne peut pas même se rendre par la rue en question? Et c'était fascinant de voir comment est-ce que dans un rêve, on peut penser à des choses ridicules comme ça. Mais on avait du fun à parler de ça et à penser à ça. Mais ici, verset 12, on a tout un songe, tout un rêve, OK? Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai, partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Alors, c'est tout un rêve, et c'est un rêve qui est spécial. On parle ici d'une échelle. Le mot hébreu, j'ai déjà mentionné, il y a des mots hébreux qu'on a qui sont plutôt génériques. Ils peuvent être traduit par d'autres choses que simplement échelle dans ce cas-ci. Une échelle peut être aussi un escalier. Ça pourrait être. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que l'image ici, on a des anges qui montent et descendent. Et je trouve ça un peu bizarre comme rêve d'avoir des anges qui grimpent dans une échelle. Non, c'est un escalier. Et la manière qu'on parle, Dieu est en haut et Dieu parle. Dieu parle et les anges montent et descendent comme s'ils rendent service à l'Éternel. Ce qui est vraiment frappant, c'est que Dieu va donner dans cet songe, il va donner à Jacob une révélation qui est, ben, en fin de compte, c'est pas du neuf, hein? C'est la même promesse qu'il a faite à Abraham. C'est la même promesse qu'il a faite à Isaac. C'est les promesses d'avoir une postérité, une nation nombreuse, toute une famille. Et il donne cette même promesse. Il a dit, ça va être tellement nombreux, ça va être comme la poussière. Je ne sais pas vous autres chez nous, quand on fait le ménage, il y en a de la poussière. Puis on en ramasse la poussière. Et c'est partout. Et c'est vraiment l'image que Dieu veut donner à Jacob. Nombreux comme la poussière, ça va être partout. Et il va leur donner un pays pour leur nation. Grand dans toutes les directions. Il parle ici des quatre différentes directions. Nord, sud, est, ouest. Ils vont remplir ce pays-là. Et c'est drôle parce que jusqu'à date, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob et Ésaü. Ils sont promenés dans un pays avec des troupeaux. Ils avaient le territoire au nord, au sud. Ils pouvaient se rendre où ce qu'il y avait le pâturage, où ce qu'il y avait de l'eau. Ils ont été déjà libres dans un énorme pays et ils vont le remplir un jour par leur postérité. Et il dit aussi encore cette promesse qui est importante pour nous. Il dit que Jacob et ses descendants vont être une quoi? Une bénédiction pour toutes les nations. Et nous, on sait que de quoi est-ce qu'il parle. Il parle que le fait que à partir de Jacob va venir les bénédictions de Dieu, mais surtout les bénédictions de notre Sauveur Jésus-Christ qui va être né, qui va vivre sur la terre, qui va donner sa vie sur la croix pour payer nos péchés. Quelle grande bénédiction! Est-ce qu'il y en a une plus grande que ça? De nous donner une vie éternelle avec le pardon qui vient de son Fils. Alors, on voit cette promesse que Dieu donne à Jacob. Et il y a des choses que je veux que vous constatez. C'est la même promesse qu'il a donnée à Abraham. Et d'un sens, c'est la même façon qu'il a donnée à Abraham. Parce que là-dedans, il n'y a jamais condition ici. Il n'y a aucune condition. C'est Dieu qui va tout faire. Jacob doit quoi faire? Rien. C'est automatique. Dieu le donne. Et Dieu va le faire. C'est unilatéral. C'est seulement Dieu qui va agir. Et lorsque Jacob se réveille, il est vraiment impressionné. Il dit, verset 16, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et c'est pour ça qu'il a donné le nom Bethel. Bethel veut dire « la maison de Dieu ». Jacob, il donne justement la gloire à Dieu pour le fait qu'il a donné cette révélation. Et il est frappé par tout ce qu'il a vu dans le rêve, tout ce qu'il a entendu dans cette songe. Et il a peur, il a la crainte de Dieu. Il reconnaît que Dieu est en charge. Et là, il veut faire de quoi pour adorer le Seigneur, adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pierre sur laquelle il était couché, il le place comme un monument, il va loin de l'huile, il veut donner cette place un monument pour le Seigneur. Verset 18. Et ensuite, verset 19, il donne le nom de Bethuel, mais auparavant, cet endroit, on l'appelait Luz, alors il change le nom. Et là, verset 20, Jacob va faire un vœu tellement important. Il dit, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » J'ai fait exprès pour le lire dans la façon que c'est écrit en français. En anglais, c'est très semblable. Le problème, c'est que dans l'hébreu, c'est pas écrit tout à fait comme ça. OK? Premièrement, verset 20-21, deux fois, Jacob va rendre cette vœu conditionnelle. Il dit « si ». Dans l'hébreu, il n'existe pas de « si ». C'est un vœu qu'il est en train de faire. C'est une promesse qu'il est en train de faire. C'est pas conditionnel, pas du tout. Et là, il dit ensuite « alors ». Devine quoi, dans l'hébreu, il n'y a pas d'alors. Si on lit comme c'est écrit dans l'hébreu, c'est que Dieu était avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. Il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Je retourne en paix à la maison de mon père. L'Éternel sera mon Dieu. J'espère que vous voyez la différence. De manière que c'est écrit, c'est logique pour un anglophone ou pour un francophone de le lire comme ça. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas conditionnel. Dieu a déjà donné sa promesse. Il a déjà garanti qu'il va s'occuper de Jacob pendant son voyage. Il va le ramener. Il va le bénir. Il n'a pas besoin d'un Jacob de mettre l'Éternel à l'épreuve. Et la balance de chapitre 29, 30, 31... Si on regarde avec l'idée que Jacob a fait un vœu intentionnel, il s'est engagé envers l'Éternel, ça se lit tellement plus logiquement si on regarde ces chapitres avec l'idée que Jacob s'est donné à l'Éternel. Et il y a des choses qui vont arriver dans sa vie. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont arrivées dans chacun de vos vies. Lorsqu'on arrive sur un haut et un point haut dans la vie, est-ce que c'est facile de tourner vers l'Éternel et dire merci Seigneur? Ça, c'est moi, on le dit à chaque repas. On remercie le Seigneur pour les bénédictions, pour la nourriture qu'il nous donne fidèlement. On est sur un haut. Notre vie va bien à cause de l'Éternel. Mais il y a aussi des moments où il y a des bas. Est-ce qu'on est capable de louer le Seigneur quand on est éprouvé? Pas facile, hein? Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va voir à travers la vie de Jacob. Alors, on voit comment est-ce que Jacob promet de donner quoi? Une dîme. Première fois qu'il y a une dîme mentionnée dans les Écritures. Première fois qu'on donne une garantie. C'est deuxième fois, parce qu'Abraham avait promis à Melchizedek de lui donner une dîme. Ça. Mais on voit comment est-ce que, déjà, il est intentionnel, même avec son offrande. Quelque chose de spécial. Alors, c'est clairement un point haut pour Jacob. Je ne sais pas si j'étais pour classifier les points dans la vie de Jacob. Moi, je suis tenté de dire que ça, c'est probablement spirituellement la place où il est au point, au sommet. Dieu lui donne une promesse, lui donne vraiment un engagement. Il me semble que c'est une place où on dirait Jacob, là, on ne peut pas battre cela. Mais Jacob va avoir les hauts et les bas, et on va les voir en suivant. Si on regarde chapitre 29, on est rendu là, verset 1. Chapitre 29, on arrive, Jacob se mit en marche. Il s'en allait au pays des fils de l'Orient. Il regardait, et il voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ceux puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, et on roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les troupeaux. Et on remettait la pierre à la place sur l'ouverture des puits. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la mécanique, c'est que tout le monde a des troupeaux, mais pour avoir de l'eau dans un terrain plus sec, on va creuser un puits. On ne veut pas que le puits devienne contaminé, que quelqu'un tombe là-dedans. On ne veut pas qu'une bête tombe là-dedans. On va mettre un couvercle là-dessus. Le couvercle qu'ils ont, les autres, c'est une roche grande et plat. Et l'idée, c'est qu'on couvre le trou. Et quand on arrive avec nos troupeaux, on arrive tout en même temps, et devine quoi? On est plus qu'un berger, pourquoi? Pour enlever cette pierre-là et pour être capable de donner de l'eau à nos brebis. Lorsqu'ils avaient bien bu, qu'est-ce qu'on fait? On remettait la pierre par-dessus le puits. Alors, Jacob arrive à ce puits-là et il est fatigué, il a voyagé beaucoup. Et là, verset 4, Jacob dit au berger, Mes frères, d'où êtes-vous? Et ils répondirent, nous sommes de Charan. Alors, imaginez-vous Jacob qui réagit à ça. Ouf, je suis à la bonne place. C'est là où se trouve la famille. Et il leur dit, connaissez-vous Laban, le fils de Nahor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondent, il en est bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau de Laban. Il dit, voici, il est encore un grand jour. Il n'est-il pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller faire les paîtres? Et les bergers répondent à Jacob, nous ne le pouvons jusqu'à ce que tous les troupeaux sont rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus de l'ouverture depuis et qu'on abreuve les brebis. Quand tout le monde est là, c'est le temps. Avant ça, on attend. C'est pour ça que les troupeaux sont là et ils attendent. Now, Jacob est vraiment sur un haut ici dans sa vie. Parce que l'objectif, c'est de trouver Charan. Il l'a trouvé. Et en plus, il trouve déjà un des filles de Laban qui arrive. Pour lui, là, c'est fantastique. En préparant, je me suis dit, y a-t-il des similarités entre Jacob et, dans le chapitre 24, le serviteur d'Abraham qui a envoyé son serviteur? Il trouve la bonne place. Il arrive à la bonne place. Il se fait présenter déjà par quelqu'un de la famille. Et c'est comme si c'est du déjà vu. Et on pose la question, comment ça se fait que ça arrive? Bien, c'est simple. Nous, on sait. On sait qu'est-ce qui arrive ici. Il y en a eu de cette histoire-là, puis c'est quoi? C'est la main de Dieu. La main de Dieu qui organise toutes choses. Alors, verset 9, comme il leur parla encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approchait, il roulait la pierre de dessus de l'ouverture du puits et il abreuvait le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel et il élevait la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Et Jacob demeura un mois chez Laban. Now, c'est un passage où le récit passe très rapidement, mais il y a quelque chose qu'il faut constater. Un, c'est Jacob, quand il voit Rebecca, la réponse c'est quoi? Ouh là là! Hein? Il est impressionné. Wow! Et puis Laban est tellement content de recevoir un membre de sa famille. L'hospitalité, c'est vraiment spécial dans sa famille. Il a vraiment hâte d'entendre toutes les nouvelles et Jacob lui raconte tout. Je me suis demandé, pensez-vous qu'il a répondu à tout ce qui est arrivé? Pensez-vous qu'il a tout dit? Probablement pas tout, mais il est certainement capable de donner des nouvelles à Laban. Et Laban est convaincu par cela que, oui, c'est définitivement, c'est membre de ma famille. C'est mon chair et mon os. comme prévu, Jacob était envoyé pour rester chez Laban. Il reste une semaine. Il reste deux semaines. Il reste trois semaines. Finalement, il reste un mois. Et il faut comprendre qu'à travers tout cela, il y a des choses qui arrivent dans la maison. Il est là un mois et puis, évidemment, il va aider son oncle. Et puis, verset 15, Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi, quel serait ton salaire? » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, la fille cadette. » Pour citer mon petit-neveu, c'est l'amour. Hein? Travailler 7 ans pour une fille, wow! Si vous prenez votre salaire, vous multipliez fois 7, ça fait beaucoup de sous pour gagner cette demoiselle-là. Hein? Elle n'est pas venue bon marché. Non, non, non! Il a travaillé 7 ans pour l'avoir. Et 7 ans, c'est quelque chose. Mais pour lui, ça, c'est le salaire qu'il désire. Il veut une épouse. Il veut une épouse de la famille. C'est ça qu'il avait comme instruction. Et il voit la fille, et la fille est belle. Lui, il pose la question, ça peut être mieux que ça? Jamais de la vie. Et il est prêt à travailler tout ce temps-là. Et Laban lui répond, verset 19, que « J'aime mieux te la donner que la donner à un autre. Reste chez moi. » Et ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Hein? C'est-tu donc beau, l'amour? Ah oui. 7 ans de travail dur. Ah, c'est juste comme quelques jours.
Pierre. Ça veut dire quoi les mains en dessous du menton?
Oh, l'amour. C'est parce que mon neveu, quand il était petit, on regardait la télévision, il me regardait le grand-papa. Il dit, mon neveu, il me dit, mon nom, l'amour. Mais c'est ça. Il est envahi, il est embarqué, il est tellement content. Qu'est-ce que tu veux? C'est-tu donc bon? C'est-tu donc merveilleux? Quelle histoire fantastique! On termine là, puis on s'en va. Tout le monde est content. Non, non, ça ne termine pas là. Hein. Eh bien, mais c'est certainement pas un point bas dans la vie de Jacob. À ce moment-là, tout va comme sur des roulettes. C'est merveilleux. Verset 21, ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme car mon temps est accompli. » Il a fait ses 7 ans. Okay? « Et j'irai vers elle, une façon gentille de dire quoi? » Va le prendre comme épouse et elle va devenir la mère de mes enfants. Je suis excité de la voir. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin merveilleux. Et le soir, il prit Léa, sa fille, il l'amena vers Jacob, il s'approchait d'elle et Laban donna pour sa servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'es-tu pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Toute une surprise, c'est pas Rachel. Alors moi j'ai eu beaucoup de misère avec ce parti de passage. Toute la semaine, j'essaie de débattre comment on présente ça comme faux. En lisant différents commentaires, on constate qu'il y a énormément de différences d'opinion. Ça se peut que le fight, une fight d'une semaine, c'est une fight longue et vraiment grandiose. Beaucoup de vin, beaucoup de commentaires pensent que Jacob était ivre. Moi, je suis pas convaincu. Il y en a d'autres qui disent non, c'était parce que c'est la nuit, il n'y avait pas d'électricité, c'est noir, il ne pouvait pas voir. Ah non, non. Moi, il me semble que. Ils doivent, après 7 ans, connaître la différence entre ces deux filles-là. Non? Il y en a un commentaire que j'ai trouvé comment bien, c'est que la tradition, c'est que lorsqu'on est engagé envers quelqu'un, une fille va mettre une voile. Et elle va faire ça jusqu'à le soir de ses noces. Et on voit cette situation. Ouais, peut-être qu'elle a été cachée. Mais en tous les cas, Jacob se fait déjouer. Un point bas dans sa vie. Hein? Son oncle, maintenant son beau-père, l'a déjoué. Quelle surprise! Et moi, j'ai beaucoup de questions. On n'a pas le temps ce matin, mais j'ai beaucoup de questions. Je suis sûr que vous en avez. C'est quoi ce qui trottait en arrière la tête de Laban de faire une telle affaire? I mean, il faut que tu penses. Sérieusement, il faut penser que Laban, est-ce qu'il aime sa fille? Lui jeter dans une situation comme ça, il me semble que ça risque d'aller mal. Ça risque de virer très mal pour sa fille. Et pourquoi est-ce que Laban fait ça? Pour que Jacob soit fâché avec lui? Il semble qu'il voudrait récompenser son fils. L'entente était faite pour Rachel et puis pourtant, il a donné Léa. Comment est-ce que Léa peut s'embarquer dans ces jeux-là? Moi, je vois cette situation où Léa va dire à son père, « Es-tu malade? » Non, non, non. C'est pas ça que Jacob veut. C'est pas ça qu'il veut. Hey, c'est pas correct. Mais Léa, elle semble embarquée dans le jeu. Où est-ce qu'il y a Rachel dans tout ça? Il me semble qu'il devait avoir quelque part dans la maison une fille qui crie à toute tête, non? Hey, c'est mon mari, pas elle. Et on peut voir comment est-ce que ça va juste mettre la chicane dans la famille. Si on pose toutes les questions qu'on a dans notre esprit, on se pose, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux permettre cela? C'est une situation tellement pénible.
Mais dans le temps, Dan, il ne devait pas marier la personne la plus vieille.
Verset 26. Yeah, c'est exactement, verset 26. Laban dit, c'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ouais, tu aurais pu me dire ça avant que je fasse les 7 ans, non? Hein? Il me semble que ça s'explique, ça. Et littéralement, est-ce que c'est vraiment honnête, intègre? Moi, je trouve que c'est caché, quasiment. Alors, verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant un autre 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il achevait la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. C'est toute une excuse, Jacques. Je m'excuse. Mais, hey. Et si c'était le cas, dis-moi-le. L'entente, il semble ici que Laban cherchait du main-d'œuvre pas cher pour un autre 7 ans. Je ne suis pas sûr qu'il avait pensé si loin dans le futur, mais il me donne l'impression, n'est-ce pas? C'est un gars qui manigance les choses, qui manipule, et il semble qu'il cherche à avoir Jacob. Un des commentaires que je trouve qui n'est pas correct disent que Laban n'avait pas de garçon, il avait juste des filles, puis il en avait besoin du main-d'œuvre. Je sais que plus loin, on va parler des fils de Laban, so Laban avait des garçons quand même. So, l'idée ici, là, il semble que c'est spécial. Est-ce que c'est juste parce qu'il voulait Jacob? Est-ce qu'il voulait le garder? Et littéralement, on peut voir comment est-ce que ça, c'est un point bas. Tu peux voir Jacob, à chaque matin, il se lève et il dit, comment ça se fait que l'Éternel, qui m'a fait une promesse fantastique à Bethel, maintenant je suis en train de vivre quasiment un enfer. Ça va rempirer, Jacob, tu vas voir. Mais ce qui est fascinant dans la situation, là, c'est que Jacob, à travers toutes ses expériences, semble de quoi? De soumettre et d'obéir. Est-ce que c'est parce qu'il était un lavette? Mais on va voir plus loin qu'il n'est pas un lavette. Mais de l'autre côté, il semble qu'il réalise que c'est ça qu'il doit faire pour avoir Rachel. Il va le faire. Et on dit qu'il est en amour. Là, je me demande, est-ce que c'est amour ou c'est simplement parce qu'il veut s'obéir, soumettre à ce que Dieu lui donne dans la vie? Et c'est fascinant de voir cette obéissance dans les épreuves. Jacob est un exemple flagrant pour nous. La question que je me demande par conclusion ce matin, c'est simplement de regarder l'injustice. L'injustice que Jacob a vécue, est-ce que ça ressemble des fois à l'injustice qu'on a chez nous, dans notre société? On a un qui a regardé les manchettes, les nouvelles, et on est exposé à des choses que ça n'a pas du sens. Quand même qu'on voit ça, qu'on vit ça.
Il y a l'injustice que les croyants peuvent vivre. On paraît que le premier ministre du Québec veut interdire les prières en public. Yeah. Moi, ça ne me fait rien parce que je ne prie jamais en public.
Yeah, mais moi, je prie en public tout le temps parce qu'ils disent prier sans cesse. Mais l'idée, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on ait aucun élément religieux qui rentre dans la vie quotidienne. Et ça, là, c'est pas correct parce que la vie est spirituelle, veut pas. Tout ce qu'on fait, en arrière de tout ça, là, c'est il y a des croyances. Malheureusement, la vaste majorité des gens aujourd'hui, leur Dieu, c'est qui? Hein, c'est eux-mêmes. Ils veulent satisfaire eux-mêmes. So, pour nous, on...
m'écarte du sujet, là, où est le pardon dans ça?
Et justement, où est-ce qu'il est, le pardon? Et es-tu là? Et la réponse est que j'ai l'impression que le pardon vient de Dieu, il vient pas de l'homme. C'est pas de nous, hein? Mais nous, on vit dans un monde où c'est plein de périodes bas. Les choses qui arrivent dans notre vie, les choses, des drames, les situations pénibles. La semaine passée, on a vu la révolution en Syrie. On a beaucoup de misère à décompter le nombre de personnes qui sont décédées dans une situation semblable. Et quand on voit ça, c'est incroyable. On ne peut pas retrouver ces jeunes qui sont morts, les aînés qui sont morts à cause des bombes, à cause de tous les combats inutiles dans l'Ukraine. Et on voit toutes ces situations et on se pose la question, où est la justice de Dieu? Où est-ce qu'est la justice de Dieu? Il ne se trouve pas là. C'est vraiment une question de pénible.
Il y aura une justice à la fin des temps.
Et ça, c'est une réalité. Parce que quand on regarde en arrière dans notre vie, on regarde les choses qui sont arrivées, là, on est capable de dire, oui, je vois l'Éternel qui est en train d'agir dans les situations, dans les épreuves qu'on a vécues. Je suis capable de voir certaines choses. Mais le futur, j'ai hâte de le voir. Et moi, je suis convaincu, comme toi, Charles, que ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. Le plan de Dieu, c'était un plan différent. Je ne sais pas vous autres, moi je regarde les Écritures, je regarde la vie de mes ancêtres, de ma famille, de moi-même, même ma vie, et je vois les choses que Dieu est en train de faire. Et la première réaction, c'est que je me dis, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Et je réalise que le plan de Dieu est différent. Et Jacob est en train d'y goûter, hein. Lui avait toutes sortes de plans. Il avait le droit d'aînesse qu'il a eu, il a la bénédiction de son père. Il semble que lui, il organise des choses de sa façon. Il sait que depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, Dieu a déjà dit que c'est lui qui va tout avoir, ces choses-là. Mais il travaille très fort pour obtenir ce que Dieu va lui donner anyway. Dieu va lui donner quand même. Et pourtant, lui, il se force. Et là, il arrive un moment dans sa vie où ce que les choses deviennent difficiles, pénibles. Est-ce que ça change les promesses de Dieu envers lui? Jamais. Les promesses sont toujours là. Il va arriver, veut pas. Et pourtant, de forcer la note, comme on fait, ben, c'est comme si on renie la souveraineté de Dieu. Au lieu de se mettre à genoux et simplement dire, Seigneur, montre-nous qu'est-ce que tu veux faire. On voit que Jacob, quand même, semble être soumis, et même avec l'épreuve de son oncle, il reste fidèle. Et je pense que ça, c'est pour nous un exemple important. De toutes les choses que Jacob fait mal, il y a une affaire qu'il semble faire, c'est qu'il se soumet dans la vie, il est prêt à attendre à ce moment-ci à ce que Dieu va lui bénir. Et ça, c'est important pour nous. Nous, on devrait être patients. Et on devra être à genoux devant l'Éternel, on lui amène nos soucis, on lui amène nos épreuves, et on lui demande de nous aider à passer à travers pour qu'on puisse apprendre ce que Dieu veut qu'on apprenne. Pour moi, ça, c'est les choses peut-être les plus importantes qu'on étire de la vie de Jacob, dans ses hauts et ses bas. Alors, sa vie n'est pas terminée, on a encore un autre 20 chapitres de Jacob, et on va les regarder dans le Nouvel An. Nous allons terminer ici